VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce mardi 15 septembre 2015. À la une ce soir.
Violence à Kinshasa, des affrontements ont éclaté en marge d'un rassemblement de l'opposition faisant 2 morts.
Reprise à la haie du procès de Bosco Ntaganda, ancien chef de guerre dans l'est de la RDC.
Ebola, un fléau qui inquiète de nouveau en Sierra Leone. Les autorités sanitaires viennent de placer 700 personnes en quarantaine.
Au Cameroun, la menace de Boko Haram continue d'alimenter l'exode des habitants vers des régions jugées moins dangereuses.
Je reçois sur ma table des bulletins de renseignements quotidiens qui relatent les exactions atroces de Boko Haram, qui égorgent ici, qui tuent là-bas, qui violent par-ci, qui enlèvent par-là.
On fera le point avec notre correspondant à Yaoundé.
États-Unis, un nouveau sondage confirme la préférence de 50% de l'électorat républicain pour deux novices, Donald Trump et Ben Carson. Se trompe-t-il ?
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Affrontement à Kinshasa, 2 personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée cet après-midi en marge d'un rassemblement d'opposants ayant appelé le président congolais Joseph Kabila à abandonner le pouvoir fin 2016. Les détails en seconde partie d'émission.
Reprise à la haie du procès de Bosco Ntaganda, ancien chef de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Le premier témoin à charge a commencé sa déposition. On fait le point avec Idriss Fall.
Caché à la vue du public, la voix déformée par mesure de protection, ce témoin anonyme s'exprimait en swahili. Il a raconté au juge comment les rebelles de l'UPC, l'Union des Patriotes Congolais, étaient venus faire la guerre dans son village de Mangualu. À l'époque, Ntaganda était le chef adjoint de l'état-major général des forces patriotiques pour la libération du Congo, le bras armé de l'UPC. Cette milice à prédominance Emma visait, selon l'accusation, les populations Lendu, Bira et Nandé. Bosco Ntaganda, 41 ans, est accusé de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Ituri en 2002 et 2003. Il a plaidé non coupable à l'ouverture de son procès au début du mois. Général dans l'armée congolaise de 2007 à 2012, il était recherché par la CPI. Il s'est rendu de lui-même à l'ambassade des États-Unis à Kigali en mars 2013 pour demander son transfert à la CPI.
Burundi, la principale coalition de l'opposition, appelle à des sanctions internationales contre le président Pierre Nkurunziza et son entourage. Le Comité national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit dénonce un climat de terreur et un environnement de pré-guerre. L'opposition espère que des sanctions pousseront Pierre Nkurunziza à renoncer à un troisième mandat et négocier son départ. Les sanctions pourraient comprendre le gel d'avoir et des interdictions de voyager, le CNARED.
Génocide rwandais, la justice française a émis un avis défavorable à la demande d'extradition vers le Rwanda de Joseph Habyarimana. C'est ce qu'a fait savoir son avocat. Ce Français est accusé au Rwanda de complicité de génocide et crimes contre l'humanité.
En Sierra Leone, retour à la case départ avec Ebola. 700 personnes ont été placées en quarantaine afin d'empêcher une recrudescence de l'épidémie. Ce confinement massif intervient après la mort d'une adolescente de 16 ans. Jean-Roger Billon.
La jeune fille est décédée dimanche dans une banlieue rurale de la ville de Makeni, dans la province de Bombali, au nord de la Sierra Leone. Cette région n'avait pourtant plus signalé de cas de la fièvre hémorragique depuis près de 6 mois. La quarantaine va durer pendant 21 jours selon les autorités sanitaires. Parmi les personnes en confinement, on compte les parents de la jeune fille décédée, ses proches et ses camarades de classe. Ils sont classés comme présentant un haut risque, bien qu'ils n'aient montré aucun signe ou symptôme de la maladie, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé, Serret. Ce nouveau cas n'a pas de lien avec un foyer de contamination situé dans la province voisine de Kambia, où est morte fin août une femme de 67 ans dans le village de Sela Kafta, qui a depuis été placée en quarantaine. Juste avant ces nouveaux cas, la Sierra Leone espérait être en voie d'éradication du virus après la sortie d'hôpital le 24 août à Makeni de la dernière malade d'Ebola connue après plus de 2 semaines sans nouvelle contamination signalée.
Guerre civile au Soudan du Sud. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon invite le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef de la rébellion Riek Machar à venir à New York à la fin du mois en marge de l'Assemblée générale de l'ONU pour essayer de trouver une paix durable.
Nouvelle exécution en Libye. L'organisation État islamique a diffusé hier soir une vidéo montrant la mise à mort d'un Tunisien. Le groupe djihadiste accusait le boulanger de 39 ans d'espionnage pour le compte du gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale. Au cri d'Allah Akbar, son bourreau lui a tiré plusieurs balles dans la tête.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 22 migrants sont morts au large de la Turquie dans le naufrage de leur embarcation, tandis que des centaines de réfugiés se pressaient à Edirne pour tenter de regagner l'Europe par la route. Nathalie Barge.
Le navire a chaviré alors qu'il tentait de rallier l'île grecque de Kos. Parmi les victimes figurent 11 femmes et 4 enfants, a rapporté l'agence de presse turque Dogan. Les gardes-côtes ont pu sauver 249 personnes, selon l'AFP. Les autorités turques disent avoir secouru plus de 42 000 migrants depuis janvier. La Turquie accueille près de 2 millions de réfugiés, en majorité des Syriens qui ont fui la guerre. Plus de 500 000 migrants ont traversé les frontières de l'Union européenne depuis janvier, dont plus de la moitié à partir de la Grèce, a annoncé l'agence Frontex. La Roumanie a protesté contre l'intention de la Hongrie de construire une clôture entre les deux pays après celle érigée à la frontière avec la Serbie. Budapest a mis en place une législation bloquant l'arrivée de nouveaux candidats à l'exil. La Hongrie est devenue le principal pays de transit pour les migrants qui veulent regagner l'Allemagne. 9380 migrants ont traversé la frontière lundi et quelques 200 000 depuis janvier selon les autorités. Au lendemain de l'échec des négociations, l'Allemagne et d'autres pays membres ont réclamé un sommet extraordinaire pour gérer la crise. La chancelière allemande Angela Merkel a rejeté l'idée de sanctions proposées par son ministre de l'Intérieur contre les pays opposés aux quotas. La Commission européenne a également rejeté cette option.
Au Yémen, les forces pro-gouvernementales et des troupes de la coalition arabe ont progressé aujourd'hui face aux rebelles chiites pro-iraniens dans le centre du pays, au troisième jour de leur offensive destinée à reconquérir la capitale Sanaa. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Sur le terrain, les troupes au sol soutenues par des raids aériens de la coalition ont repris deux collines stratégiques autour de Sirwa, place forte des rebelles houthis sur la route de Sanaa, dans la province de Marib, selon des responsables militaires loyalistes. Des forces terrestres de la coalition, notamment des Émirats arabes unis, mais aussi d'Arabie saoudite, participent à l'offensive, a assuré un responsable militaire yéménite. Des colonnes de fumée s'élevaient de collines bombardées par intermittence par des avions de combat de la coalition et pilonnées à l'artillerie par les forces gouvernementales, a rapporté un correspondant de l'AFP. Cette offensive a pour but de mettre fin à un conflit dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Celui-ci a fait, depuis le début en mars de l'intervention de la coalition, 30 morts et 185 blessés par jour en moyenne, selon des nouveaux chiffres de l'ONU.
7 personnes ont été condamnées à mort ce mardi au Koweït, dont 5 par contumace, pour un attentat suicide meurtrier perpétré en juin contre une mosquée chiite. Cette attaque, lancée par un kamikaze saoudien et revendiquée par le groupe État islamique, avait fait 26 morts et 227 blessés. En prononçant le verdict, le juge a appelé les autorités à lutter contre le groupe djihadiste sunnite, qui considère notamment les musulmans chiites comme des hérétiques.
La tension n'a pas baissé d'un cran sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, où des policiers étaient déployés ce mardi pour protéger des visiteurs juifs et des touristes étrangers non musulmans. Au troisième jour des affrontements, 26 Palestiniens ont été blessés et 2 d'entre eux hospitalisés, selon le Croissant Rouge. 5 policiers ont été blessés, selon la police. 4 personnes ont été arrêtées.
La police américaine a annoncé l'arrestation d'un jeune de 15 ans suspecté d'avoir planifié un attentat lors de la prochaine visite du pape François. Ce mineur, interpellé le mois dernier à Philadelphie, s'inspirait du groupe État islamique, selon le FBI et le ministère américain de la Sécurité intérieure, que cite l'AFP. Le jeune de 15 ans s'est procuré des méthodes de fabrication d'explosifs et les a diffusées sur Internet, a précisé la police. Le pape François arrive aux États-Unis dans une semaine. Il fera escale à Washington, New York et Philadelphie.
De novices en politique, l'investisseur milliardaire Donald Trump et le neurochirurgien Ben Carson arrivent en tête du dernier sondage sur le choix des républicains américains pour la présidentielle de 2016. Alors que les 16 prétendants à l'investiture du parti se préparent pour un nouveau débat télévisé mercredi soir, ce sondage CBS New York Times, publié aujourd'hui, donne à Donald Trump 25% des intentions de vote à l'échelle nationale et 23% au Dr Carson. Aucun des 14 autres candidats n'atteint la barre des 10%. En fait, le troisième sur la liste, l'ancien gouverneur Jeb Bush, obtient seulement 6%. Mais d'ici au premier scrutin prévu début février, beaucoup de choses peuvent se passer. L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton reste en tête chez les démocrates, mais dans l'Iowa et le New Hampshire, le pari semble plutôt difficile face au sénateur indépendant Bernie Sanders.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Lucie Lamont.
Ouverture à Dakar des 15e assises économiques des MEDS, mouvement des entreprises du Sénégal. Pour être juste, a dit son président Magnick Diop, la croissance doit être équilibrée dans la redistribution de ses fruits et pour ce faire, l'entreprise doit être au cœur de cette redistribution. Elle est le lieu où se nouent et se dénouent les liens sociaux, le lieu où la richesse se crée avant d'être ensuite répartie, a notamment dit M. Diop. Le gouvernement du Mali va, dans le cadre du plan national d'investissement de l'agriculture, injecter cette année une enveloppe de 4 milliards de francs CFA dans le secteur agricole, a appris à Bamako l'agence APA. Cette mesure a été prise à l'issue d'une rencontre lundi entre les cadres du ministre de l'Agriculture et le représentant Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Agriculture au sein de la Banque mondiale en visite au Mali. L'économie sierra-léonaise se ressent toujours de l'impact de l'épidémie d'Ebola qui a exacerbé la crise dans le secteur minier, déjà victime de l'effondrement des prix du minerai de fer. Tel est le constat d'une mission du Fonds monétaire international en Sierra Leone. Dans un communiqué, le FMI note que le PIB de la Sierra Leone devrait diminuer de 21,5% en 2015 contre une croissance de 4,6% en 2014. L'inflation devrait se chiffrer cette année à 9,9%.
Et vous l'avez reconnu, hein, il s'agissait d'Idrissa Seydoudia pour cette Minute Éco. Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions ce mardi.
Oui, le Paris Saint-Germain, avec l'arrivée notamment de l'Argentin Angel Di Maria, fera sa rentrée européenne contre l'ancien club de sa star Zlatan Ibrahimovic. Ce sera en Suède, à Malmö. Quant au Shakhtar Donetsk, il se déplace chez un impressionnant Real de Madrid. Les deux équipes qui restent sur deux cartons en championnat. 5-0 pour le Shakhtar face au métalliste Kharkiv et 6-0 pour le Real de Madrid contre l'Espagnol Barcelone avec notamment le quintuplé de Cristiano Ronaldo. Dans le groupe B, leader du championnat de Russie après 8 journées, le CSKA Moscou, invaincu depuis 8 matchs, de bon augure avant d'aller défier Wolfsburg. Quant à Manchester United, le club anglais se déplacera chez le PSV Eindhoven. Dans le groupe C, un stade parmi les plus bruyants d'Europe, un public bouillant et deux équipes au jeu rugueux et combatif. La rencontre entre Galatasaray et l'Atlético Madrid est riche en promesses. A noter également que Astana, le petit poussé kazakh de cette édition 2015-2016, se déplacera chez le Benfica Lisbonne. Enfin, dans le groupe D, le choc Manchester City-Juventus de Turin, la Ligue des champions qui n'a jamais trop réussi aux Anglais. Enfin, la dernière rencontre, Séville contre les Allemands de Mönchengladbach.
Jeux africains à Brazzaville.
La Côte d'Ivoire a brillé sur 100 mètres au stade de Kintele. Chez les femmes, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou l'a emporté en 11 secondes et 2 centièmes. Quant à son compatriote Ben Youssef Meïté, il a remporté la finale du 100 mètres messieurs en 10 secondes et 4 centièmes. L'Éthiopie a dominé l'épreuve masculine du 10 000 mètres. À suivre ce soir, la finale du 100 mètres est chez les dames.
Et puis Toronto qui dit non aux Jeux Olympiques de 2024.
La ville canadienne n'est pas candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. C'est ce qu'a annoncé le maire de la ville canadienne John Tory en donnant rendez-vous pour une prochaine édition.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriac et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Kinshasa.
Les leaders de l'opposition congolaise ont tenu, comme prévu, leur meeting à la place Sainte-Thérèse à Ndjili, l'une des communes les plus populaires de Kinshasa. Tour à tour, Madame Eve Bazaïba du MLC de Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Martin Fayoulou ou encore Joseph Olingankoy ont appelé le président Kabila au strict respect de la Constitution et rappelé leur opposition au glissement du calendrier électoral. Malheureusement, la fin du meeting a été émaillée d'incidents attribués à des sportifs représentés comme proches des membres de la majorité présidentielle. Ces incidents ont fait 2 morts et quelques blessés. Reportage de Walter Nkui de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Plus de 5000 personnes se sont regroupées à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili pour écouter le message de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. C'est vers 14h que les différents intervenants ont commencé à prendre la parole. La toute première était Eve Bazaïba, suivie de Vital Kamere, Gilbert Kyakwama, Koloso Soumaïli. Joseph Olingankoy, président des FONUS, a pour sa part recommandé à la population de rester éveillée pour éviter toute manipulation.
Notre peuple vient de démontrer sa détermination. C'est que je suis en train de revivre, c'est ce que nous avons vécu vers la fin du régime de Mobutu. La détermination des peuples est là. Dans les tout prochains jours, la nation congolaise va vivre les changements réels dans ce pays.
Pour Jean-Lucien Boussa, président du CEDER, le temps du changement est arrivé.
Aujourd'hui, le président Kabila, son gouvernement, les parlements, la CENI, la Cour constitutionnelle et toutes les institutions de la République viennent d'avoir le message du peuple congolais. Le peuple congolais veut un nouveau président le 27 novembre 2016 et ceci ne souffre d'aucun débat. Le peuple congolais dit à ceux qui dirigent le pays, respectez la constitution dans ses dispositions relatives au mandat du président de la République. Le peuple congolais vient dire non au glissement. Le peuple congolais aussi vient de dire non au dialogue. Il n'a pas de sens.
Revenons sur la dernière sortie politique des cadres de la MP, dit G7. Vital Kamerhe a souhaité voir ses acteurs de la majorité présidentielle œuvrer pour les valeurs républicaines.
Dit non au troisième mandat et je ne peux que les féliciter et les encourager. Il faut avoir le courage de ses opinions. Quand un homme politique n'a plus de convictions, il doit abandonner la politique. J'encourage donc les amis des G7 et je voudrais que d'autres de la majorité qui hésitent puissent les remporter les pas. Aujourd'hui, nous allons proposer un manifeste d'éveil de la conscience congolaise où tous ceux de la majorité, de l'opposition comme de la société civile qui pensent qu'il faut œuvrer pour les valeurs républicaines, nous serons ensemble dans un front commun pour barrer la route à tous ceux qui veulent que la dictature continue dans notre pays.
Cette grand-messe de l'opposition a été interrompue par des jets de pierres d'un groupe d'individus inconnus, des incidents qui ont malheureusement causé la mort de 2 personnes.
Kinshasa, Walter Nkui de Top Congo pour VOA Afrique.
On met le cap sur le Burkina Faso. Le groupe international de soutien et d'accompagnement de la transition au Burkina est venu à Ouagadougou pour rencontrer les acteurs sociopolitiques. L'objectif du JISAT, composé des représentants de la CDAO, de l'UA et de l'ONU, est de mieux aborder la dernière ligne droite vers les élections. La correspondance de Zoumana Wonogo.
En ouvrant les travaux de la réunion du JISAT, groupe international de soutien et d'accompagnement de la transition burkinabé, le président du FASO, Michel Kafando, a donné le ton de l'optimisme par ces mots.
Nous avons foi en la vertu du dialogue qui permet de surmonter les difficultés de tous ordres. Le gouvernement de la transition reste dans cette dynamique et n'a de cesse d'exhorter les différents acteurs à œuvrer de bonne foi à l'apaisement du climat social et à user des moyens légaux mis à leur disposition pour régler tout différent politique.
Dans la même lancée, le président de la CDAO, Kadré Désiré Ouédraogo, lance un appel aux acteurs sociopolitiques.
C'est un appel à la tolérance, au fair play et également à éviter tout comportement ou toute parole qui pourrait gêner le processus de cohésion sociale. Ils doivent au contraire encourager leurs militants à travailler toujours dans l'intérêt supérieur du pays.
Le Burkina Faso doit être un exemple de transition réussie. Tel est le leitmotiv de Mohamed Ibn Chambas, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest.
Le président Jonathan de Nigeria, quand il a vu même les tendances, il voyait que les élections là, il ne peut pas gagner. C'est lui qui a pris le téléphone, appelé les leaders des oppositions de dire félicitations. Donc, pour moi, c'est un bon exemple pour l'Afrique et j'espère que le lendemain des élections ici, que la tendance est claire et nette pour tout le monde. Ceux qui ont perdu là vont appeler les vainqueurs et dire félicitations, nous sommes prêts de travailler avec vous.
Comme dans la salle de rencontre, il y avait les deux poids lourds des prochaines élections, à savoir Rochmark Christian Kabore et Zéphirin Diabré. Selon des sondages publiés ici au Faso, nous sommes allés vers eux pour savoir s'ils adhèrent à ce qui a été dit. Christian Kabore.
En tant que démocrate, en tout cas au niveau du mouvement du peuple pour le progrès, nous souhaitons seulement que toutes les dispositions soient prises au niveau du gouvernement pour nous faire en sorte que nous ayons une élection transparente. À partir de ce moment, il n'y a aucune raison pour nous de contester. Et si et celui qui gagne aura gagné. Notre intérêt à tous, c'est que nous voulons le retour du Burkina Faso dans un état de droit, avec des règles de jeu pour tout le monde.
À sa suite, voici ce que Zéphirin Diabré a dit.
Dès lors que les états sont transparents et équitables, celui qui est vaincu doit appeler le vainqueur pour le féliciter. Je souhaite que le Burkina Faso soit un exemple qui démente un peu ce que certains ont comme crainte par rapport au lendemain d'élection. Et de mon point de vue, en principe, tout devrait se passer en tout cas de la meilleure manière possible.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La menace terroriste de Boko Haram continue d'être un frein au développement du Cameroun. Le gouvernement évalue à 150 000 les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Certaines d'entre elles sont des élèves en quête de villes stables où ils peuvent poursuivre sans peur leurs études. Conséquence, les quelques établissements scolaires disponibles sont surchargés comme à Maroua. Notre correspondant Moki Edwin Kinzeka s'y est rendu pour voir la situation de plus près. De retour à Yaoundé, voici son reportage.
Alors aujourd'hui, en vocabulaire, nous allons étudier les mots qui sont autour de histoire.
Des élèves en plein cours à l'école publique de Maroua.
Relier chaque mot.
Ici, 25% d'entre eux sont des ressortissants des zones sinistrées par les attaques terroristes de Boko Haram. Benjuma Mag en fait partie.
C'est une situation vraiment terrible, mais si on reste là, vraiment, c'est la mort, on est obligé de fuir.
Son camarade de classe, Marcellus Ngankou, a dû quitter Kolofata, cible de la dernière attaque de Boko Haram. Selon lui, les atrocités de Boko Haram rendent la vie impossible.
C'est une guerre totale. S'il reste maintenant, c'est que je vais mourir. Il faut s'enfuir pour aller ailleurs.
Les leçons sont dispensées dans une classe pleine à craquer. Mais les responsables affirment qu'ils n'ont pas le choix, compte tenu du contexte sécuritaire. Bernadette Happy est enseignante.
Nous ne pouvons pas les rejeter parce que ce sont des Camerounais comme ceux qui sont dans d'autres régions. Donc ils peuvent venir et fréquenter dans nos écoles en dehors de l'endroit où il y a conflit. Ne perdez pas espoir. Nous espérons qu'avec le temps, tout s'arrangera et vous aussi, vous irez à l'école comme vos camarades qui se trouvent dans d'autres régions.
Les autorités camerounaises sont aussi préoccupées par la situation d'insécurité actuelle. René Emmanuel Sadi est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.
C'est des personnes qui arrivent et qui envahissent certaines de nos localités. C'est des gens qui viennent, qui égorgent. Au quotidien, je reçois sur ma table des bulletins de renseignements quotidiens qui relatent des exactions atroces de Boko Haram, qui égorgent ici, qui tuent là-bas, qui violent par-ci, qui enlèvent par-là.
Le vent d'insécurité soufflé par Boko Haram atteint des proportions inquiétantes. Le gouvernement camerounais parle d'environ 150 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays à cause de cette menace terroriste. Moki, Edwin Kinzeka, Yaoundé, VOA Afrique.
Tatiana Mosso avec vous depuis la capitale américaine dans Washington Forum ce jeudi 17 septembre. Un focus sur les violations des droits de l'homme qui seraient commises par l'armée camerounaise dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Amnesty International dénonce les abus des soldats camerounais. Comment combattre un ennemi quasi invisible et qui s'infiltre au sein des populations de réfugiés ? Partagez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec nos invités.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a mis fin aux fonctions du puissant général Mohamed Médiane, alias Toufik, qui dirigeait les renseignements militaires depuis 25 ans. La semaine dernière, le président algérien avait aussi mis à la retraite le général Ahmed Bouzdila, qui était le patron de la gendarmerie. Alors pourquoi tout ce remue-ménage à la tête de l'armée algérienne ? Idriss Fall a obtenu l'éclairage de notre confrère Brahim Tahiroubt, rédacteur en chef du journal L'Expression à Alger.
Les changements intervenus ont été quelque peu une surprise, mais en fait, c'est une démarche tout à fait normale, dans le sens où maintenant, il faut s'adapter aux mutations régionales et internationales, et puis il faut qu'il y ait du changement, qu'il y ait du mouvement à tous les niveaux de la structure, aussi bien militaire, de la gendarmerie, de la police et des services de renseignement. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il y a des changements à la tête des services de renseignement en Algérie. On l'a vu en 1987, puis 88, 80, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de changements. C'est vrai que ça a été une surprise, mais dans le fond, c'est une preuve qu'il y a un fonctionnement des institutions. Et c'est une preuve qu'il y a un aspect politique qui prime maintenant sur le militaire. C'est une revendication vieille qui date de 1956 lors du congrès de la Soumam, le premier congrès qui a structuré la guerre d'Algérie, qui disait qu'il faut qu'il y ait la primauté du politique sur le militaire. C'est un acquis important.
Mais on dit généralement on ne change pas qu'une équipe qui gagne et il est remplacé aussi par un autre vieux de la vieille, le général Béchir.
Je ne parle pas de personne, mais moi je parle du mouvement, de l'institution. Maintenant, le choix des hommes, c'est un choix qui revient exclusivement au ministre de la Défense et au chef suprême des armées qui est le président de la République. Sincèrement, je ne sais pas sur quels critères il a fait le choix, mais en tout cas, l'actuel chef du DRS n'est pas étranger à la boîte. C'est quelqu'un quand même qui a la mémoire du DRS, la mémoire du renseignement. Voilà ce que je sais de l'homme. Ce n'est pas une cassure, comment dire.
Et comment expliquer ce mouvement du président Bouteflika affirmer maintenant en fait la dominance du politique sur l'armée alors ?
Oui, le président Bouteflika l'a toujours affirmé. Bon, maintenant, l'opportunité du moment s'est présentée maintenant, mais en tout cas, le début de la restructuration a commencé, il y a belle lurette quand même, qu'on assistait à des changements aussi bien au sein de l'armée elle-même, au sein de la gendarmerie, de la police et des services de renseignement. C'est une mutation tout à fait normale.
C'était notre confrère Brahim Tahiroubt, rédacteur en chef du journal L'Expression à Alger.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Souleymane à la console, au micro Morgane Diriec et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.